Le journal, c'est avec Stanislas Vazak. Bonsoir.
Bonsoir. Jean-Louis Borloo veut ramener la République dans les quartiers. L'ancien ministre a présenté ce matin un plan ambitieux pour lutter contre le repli communautaire. Plan plutôt bien accueilli par les élus concernés. Le reportage de Lucas Caltritti dans un instant. Jean-Michel Blanquer, lui, défend le retour aux fondamentaux à l'école. Le ministre de l'Éducation délivre ses recommandations aux enseignants du primaire. En matière de lecture, il défend la seule méthode syllabique. Un nouveau délai pour les derniers zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Ils ont jusqu'au 14 mai pour évacuer. Les zadistes répondent en réclamant le départ des forces de l'ordre, dossier suivi par Stéphane Robert. Vers un durcissement du conflit à Air France, les syndicats annoncent 4 nouvelles journées de grève début mai. Les explications à suivre de Mathilde Bénézé. Des avocats français attaquent la France en justice, coupable à leurs yeux de ne pas venir en aide aux djihadistes françaises retenus en Irak et en Syrie. Les précisions d'Antoine Marette dans ce journal. Nous reviendrons aussi sur la mise en examen de Vincent Bolloré pour corruption. L'industriel est mis en cause pour ses affaires africaines. Nous en parlerons avec Mathieu Laurent. Vivre ensemble, vivre en grand la République, voilà l'intitulé du plan Borloo pour les banlieues. L'ancien ministre parle d'un plan de réconciliation nationale pour en finir avec le repli identitaire et communautaire dans les quartiers. Jean-Louis Borloo qui propose notamment la création d'un fonds de 5 milliards d'euros. Il veut aussi créer une académie des leaders réservée aux jeunes des quartiers. Lucas Caltritti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez cet après-midi aux états généraux de la ville et les élus que vous avez rencontrés accueillent plutôt favorablement ce plan Borloo.
Sur l'estrade, lors de leur prise de parole, les maires saluent le travail de l'ancien ministre de la ville de Jacques Chirac. Les 19 programmes dans le rapport vont dans le bon sens et sont nécessaires. Patrice Bessac, le maire de Montreuil en banlieue parisienne, se dit plein d'espoir.
Il contient des mesures, une énergie, une ambition qui permet de répondre aux attentes des banlieues françaises. Maintenant, il faut que ça se concrétise. C'est ça qui est devant nous. Il faut maintenant que le gouvernement, que l'État entende que les quartiers populaires, c'est une chance pour la France. C'est de l'énergie. On ne se plaint pas, on demande juste l'égalité.
La bataille ne fait que commencer donc, et les élus le savent. Marc Villemot, président de l'Association des maires de villes et banlieues de France, a identifié le premier obstacle qui va devoir être franchi.
On aura certainement en face de nous des départements ministériels, je pense notamment à ceux qui sont installés à Bercy, qui vont dire « mais ça risque d'avoir un coût, toute cette chose-là ». Oui, bien entendu, mais c'est sûrement le prix à payer pour que le mot « fraternité » qui est inscrit au fronton de nos édifices publics et le mot « égalité » puisse prendre sens dans une période où aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas.
Bercy est-il prêt alors à investir autant d'argent pour les quartiers populaires ? Réponse très prudente de Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires.
Avant de dire on va dépenser 48 ou 50 milliards, regardons de quelle manière et sur quelle durée. Et puis il y a aussi l'utilisation et le fléchage d'un certain nombre de crédits existants qui doivent être rassemblés vers les territoires qui en ont le plus besoin.
Mais c'est Emmanuel Macron qui aura le dernier mot. Il annoncera le mois prochain un plan pour les quartiers défavorisés qui s'inspirera des recommandations de Jean-Louis Borloo, le président qui avait promis le retour de l'État dans ces territoires en novembre dernier à Tourcoing.
Lucas Caltritti, merci. Alors l'éducation est un élément central de la politique du gouvernement dans les quartiers, avec notamment le dédoublement des classes de CP. Et justement, Jean-Michel Blanquer a dévoilé ce matin ses recommandations aux enseignants du primaire. Un maître mot pour définir les priorités du ministre de l'Éducation, le retour aux fondamentaux. Exemple, Jean-Michel Blanquer est catégorique sur la lecture. Seule la méthode syllabique fonctionne. La méthode globale ne marche pas, selon lui. Il s'appuie pour cela sur la recherche scientifique, ce que réfutent plusieurs spécialistes de l'éducation. Par exemple, Michel Lussault, ancien président du Conseil supérieur des programmes à l'Éducation nationale sous le ministère de Najat Vallaud-Belkacem. Pour Michel Lussault, le débat est ailleurs en matière de lecture.
On a inventé un combat imaginaire entre une méthode globale qui n'est pas enseignée en France et une méthode syllabique qui ne se définit pas comme ça quand on regarde les résultats de la recherche. La méthode globale, cela fait longtemps qu'elle a disparu, si tant est qu'elle ait jamais été réellement enseignée, ce qui est douteux. Quant à la méthode syllabique, en vérité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que cela. On n'apprend pas à lire et à écrire uniquement avec le B à bas. On apprend en faisant en sorte que les enfants comprennent le lien entre des phonèmes, des sons et des graphèmes, c'est-à-dire des écrits. Et ça dépasse de beaucoup. Le seul baba, c'est beaucoup plus complexe, ne serait-ce que parce que dans une langue comme le français, la composition des phonèmes et des graphèmes est assez subtile. Et qu'il faut naturellement aussi tenir compte des mots qui ne sont pas des mots que l'on peut décomposer en syllabes, qu'on est obligé d'apprendre globalement. Donc, je crois que Jean-Michel Blanquer, qui se targue d'être un chercheur ou un amateur de recherche, est surtout un dogmatique. Et en réalité, c'est une annonce destinée sans doute à satisfaire une clientèle politique, mais qui ne repose sur rien dans la pratique et qui surtout fait fi du fait que les professeurs des écoles dans leur classe doivent aussi faire classe en fonction des élèves qu'ils ont devant eux. Et je trouve que c'est très problématique qu'un ministre de la rue de Grenelle vienne proposer un guide qui en quelque sorte fait des professeurs des écoles qui sont formés à Bac plus 5 de simples répétiteurs. Donc je crois que la vision que Jean-Michel Blanquer a de l'école et surtout de l'apprentissage est une vision assez ringarde.
Michel Lussault, ancien président du Conseil supérieur des programmes, il répondait à Charlotte Lalanne. Le gouvernement fixe un nouveau délai aux irréductibles de Notre-Dame-des-Landes. Les derniers zadistes ont jusqu'au 14 mai pour évacuer les lieux, faute de quoi ils seront expulsés, a une nouvelle fois répété ce matin le Premier ministre Édouard Philippe sur Europe 1. Il serait encore environ 300 occupants illégaux, selon la préfète Nicole Klein. Les zadistes ont répondu à Matignon tout à l'heure en posant leurs propres conditions. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Le dialogue entre les deux parties semble de plus en plus difficile.
Oui, alors désormais, il n'y a plus de dialogue qui tienne, puisque les occupants de la zone avaient jusqu'à lundi minuit pour déposer leur projet d'installation. Ils sont 28 à l'avoir fait. La préfecture va donc désormais examiner leur dossier. C'est ce qu'a expliqué le Premier ministre ce matin sur Europe 1 en fixant un ultimatum à ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans leur rang.
Il y a 28 occupants illégaux qui ont en quelque sorte accepté la main tendue par l'État. Le 14 mai, la préfète convoquera la première réunion du comité qui a vocation à analyser les dossiers déposés par ceux des occupants illégaux qui veulent rentrer dans le droit chemin. À partir du moment où ces procédures-là sont en œuvre, ceux qui ont choisi de ne pas s'y insérer devront avoir quitté les lieux.
En réponse à cet ultimatum d'Édouard Philippe, les zadistes ont organisé une conférence de presse ce midi. Apparemment, ils ne comprennent pas bien ce qu'on leur demande et n'ont manifestement pas l'intention de quitter les lieux. Parole de zadistes recueillie par notre confrère de France Bleu Loire-Océan, Louis de Bergevin.
Ce matin encore, voilà, ça a explosé. Il y a plein de, les flics étaient partout. Ils ont entouré des lieux. Ils ont envoyé des tas de grenades. En tout cas, c'est sûr que c'est le régime de la terreur. Tant qu'il y aura la gendarmerie en fait sur la zone, et il y aura un problème, quoi. Donc voilà, ce qu'on demande, c'est vraiment le retrait des forces de l'ordre. Il n'y a pas de raison qu'ils soient ici.
C'est en fait un nouvel ultimatum, un nouveau chantage à la destruction, au tri, à de nouvelles expulsions. Donc nous, on va continuer à refuser tout tri, à défendre un projet collectif. La vision sociale, politique, écosystémique qu'on porte, et pour l'instant, c'est sûr qu'elle n'est toujours pas comprise par le gouvernement, on va continuer à la défendre. Et en tout cas, avec l'annonce du Premier ministre, on a l'impression que les conditions d'un dialogue réel ne sont pas réunies.
Voilà, il n'est plus question de dialoguer, dit le gouvernement. Maintenant, il faut partir. Les conditions du dialogue ne sont pas réunies, répondent les zadistes. Ils sont encore 250 à 300 occupants encore sur place, selon les autorités, et 2 à 300 autres opposants arrivés plus récemment pour leur prêter main forte. Face à eux, restent environ 2000 policiers et gendarmes qui seront chargés de les faire partir sans que les inévitables affrontements à venir ne dégénèrent en accident.
Stéphane Robert, merci. L'actualité sociale est dominée aujourd'hui par le conflit chez Air France. Depuis ce matin, les salariés sont consultés par voie électronique sur les augmentations proposées par la direction. Consultation contestée par les syndicats qui annoncent 4 nouvelles journées de grève les 3, 4, 7 et 8 mai prochains. Ils veulent 5,1% de hausse des salaires dès cette année, là où la direction de la compagnie s'en tient à 2% tout de suite. Mathilde Bénézé, bonsoir.
Bonsoir.
Les syndicats d'Air France sont bien décidés à durcir leur grève.
Tout à fait. Alors que la baisse du nombre de grévistes laissait penser que le mouvement était en train de s'essouffler, les syndicats ont décidé de mettre un nouveau coup de cravache. Avec au compteur déjà 11 jours de grève et 300 millions d'euros de perdus pour la compagnie, l'intersyndicale renchérit et pose 4 nouveaux jours de grève. Alors comme souvent, ce sont les syndicats de pilotes qui ont ouvert les hostilités en annonçant les premiers la reconduction de la grève. Mais finalement, c'est bien toute l'intersyndicale qui suit.
Alors question Mathilde, le référendum lancé par la direction d'Air France se risque tout de même de leur mettre des bâtons dans les roues.
Alors c'est vrai que la consultation risque vraisemblablement de virer à l'avantage de la direction. Bien que la quasi-totalité des syndicats est appelée à voter non, il faut savoir que la grande majorité des salariés est non gréviste. Ensuite, il faut aussi dire que Jean-Marc Janaillac, le PDG, a sorti la grande artillerie en mettant dans la balance sa propre démission en cas de victoire du non. Le coup de poker pourrait s'avérer payant car il jouit tout de même d'une image plus avantageuse que celle de son prédécesseur, l'image d'un homme de compromis qui a souvent fait le choix du dialogue avec les salariés, mais le pari reste tout de même risqué dans ce contexte de grogne sociale. Alors si les salariés choisissent de suivre la direction, les syndicats risquent de se retrouver entre deux feux et de perdre en légitimité. Et pourtant, même dans ce cas-là, rien ne pourra se faire sans leur aval. Leur signature est en effet indispensable pour valider l'accord salarial. Le bras de fer est donc loin d'être gagné.
Mathilde Bénézet, merci. Quand des avocats français portent plainte contre la France, ces ténors du barreau défendent des femmes djihadistes détenues en Irak et en Syrie, parfois avec leurs enfants. Elles sont de nationalité française et leurs avocats accusent l'État français de les avoir abandonnées. En novembre dernier, Emmanuel Macron avait affirmé que la situation des femmes françaises arrêtées en Syrie et en Irak serait examinée au cas par cas. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Ces avocats estiment que cette position du chef de l'État reviendrait à sortir du cadre légal.
Effectivement, ils vont déposer plainte dès demain avec constitution de partie civile pour détention arbitraire concernant trois de ces femmes. Elles sont détenues au Kurdistan syrien. Maître Marie Dosé attend une forme de prise de conscience de la part des autorités françaises.
Elles n'ont pas de titre de détention, les Kurdes ne veulent pas les juger, la justice kurde n'existe pas, la loi antiterroriste kurde ne prévoit pas l'association de malfaiteurs. Il est établi qu'elles sont actuellement en détention arbitraire. Elles sont en danger et plus le temps passe, plus elles le sont. Il y a des conditions de sécurité très compliquées. Je sais que certaines tentes ont brûlé, que des enfants ont dû être soignés, qu'il est de plus en plus compliqué pour elles d'avoir aussi accès aux soins. Elles sont extrêmement inquiètes. Plus les jours passent, plus les conditions sanitaires à l'intérieur de ce camp se dégradent et plus les Kurdes, également parce qu'ils n'en veulent plus, prêtent beaucoup moins d'attention à elles et à leurs enfants.
Jusqu'à présent, le gouvernement français s'est dit favorable à ce que les femmes détenues en Syrie et en Irak soient jugées dans ces pays, à condition qu'elles y bénéficient d'un procès équitable. Mais pour Maître William Bourdon, ces femmes françaises sont en danger.
Nous sommes dans la chronique peut-être d'une tragédie annoncée. Risque de mort, risque de mauvais traitement. Mauvais traitements dans les prisons irakiennes, où on sait que la torture et les mauvais traitements, c'est Amnesty International qui le dit, c'est pas nous, sont légion, d'agressions sexuelles dans les prisons, risque d'atteinte au procès équitable, risque de mort d'enfants, risque que ces mères soient jetées dans un cul de basse fosse ou dans des routes de campagne, et à leur guise, pouvant être l'objet de toutes les menaces, de toutes les factions dans une situation sécuritaire absolument dramatique. C'est l'honneur de la France, c'est sa tradition, c'est son histoire de rappeler au respect des principes.
En Irak, une djihadiste française, Jamila Boutou Taou, a été condamnée le 17 avril dernier à la prison à perpétuité pour appartenance à l'organisation État islamique. Une autre, Melida Bouguedir, condamnée en première instance à 7 mois de prison pour entrée illégale en Irak, doit être jugée mercredi pour terrorisme.
Antoine Marette, merci. Revenons à présent sur l'affaire Bolloré. Depuis hier soir, Vincent Bolloré a rejoint le cercle des grands patrons mis en examen. Le milliardaire est poursuivi pour corruption d'agents étrangers. Il n'a pas été placé sous contrôle judiciaire. La justice cherche à savoir si le groupe Bolloré a agi frauduleusement pour obtenir la gestion des ports de Conakry et Lomé en Guinée et au Togo. Le ministre guinéen de la justice, Cheikh Sako, a fait savoir aujourd'hui que son pays était prêt à coopérer avec la justice française dans cette enquête. Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir Stanislas Vazak, bonsoir à tous.
Les affaires africaines de Vincent Bolloré avaient fait l'objet d'un reportage de l'émission Complément d'enquête sur France 2, reportage qui vaut à son auteur d'être attaqué en justice par l'industriel.
Et oui, Tristan Walex, auteur d'un brillant portrait du milliardaire prix Albert Londres, diffusé il y a 2 ans, est attaqué pour diffamation et dénigrement pour la partie Afrique de l'enquête, pas pour le volet qui concerne la campagne présidentielle du Guinéen Alpha Condé en 2010. Tristan Walex.
On a simplement expliqué de manière très factuelle qu'il pouvait y avoir un peu de mélange des genres entre les activités de conseil politique de Navas, qui appartient à Bolloré, et les activités d'industrie et de concession portuaire du groupe Bolloré. Après, on n'a pas qualifié cela, c'est pas à nous de le faire d'ailleurs.
Des poursuites, il y a eu en revanche sur les reportages et témoignages sur les conditions de travail et de vie des ouvriers de la Soca Palme, principale plantation d'huile de palme au Cameroun, dont Vincent Bolloré est actionnaire, et les conditions d'acquisition des droits d'exploitation du port de Kribi au sud-ouest du pays, jugement le 5 juin. L'Afrique de l'Ouest n'est pas qu'un des précarés de Bolloré. Ports, trains, équipements de logistique, entrepôts, plantations, usines de transformation. Il transporte, selon le travail de notre consoeur de Mediapart, Martine Orange, 30% des exportations de cacao, café, huile de palme et coton du continent. Première projection tentée par Jean Mekart, rédacteur en chef de la revue Projet, juriste de formation. Sa mise en examen risque fort de faire réfléchir ses concurrents.
Il faut s'attendre à ce qu'il y ait une vigilance beaucoup plus grande maintenant de la part des groupes français. Bolloré n'est évidemment pas le seul groupe en Afrique et dans des régimes peu recommandables. On peut penser au groupe Total, on peut penser à certaines grandes banques françaises aussi. Alors, est-ce qu'il y aura des conséquences judiciaires? Il est évidemment trop tôt pour le dire. Mais il faudra regarder tout ça, évidemment, avec la plus grande vigilance.
Enfin, Stanislas, première conséquence en termes de politique intérieure guinéenne. Le député vice-président du principal parti d'opposition réclame l'ouverture d'une enquête parlementaire sur l'ensemble des marchés publics attribués depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. C'était en décembre 2010.
Mathieu Laurent, merci. Cette question à présent, Donald Trump va-t-il imposer des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium européens? Le président américain n'a pas encore dit clairement s'il mettrait ou non ses menaces à exécution. Il en a parlé avec Emmanuel Macron à Washington et il en parlera demain avec Angela Merkel, la chancelière allemande, à son tour en visite aux États-Unis. En tout cas, le gouvernement allemand ne se fait guère d'illusions. Un haut responsable affirme même partir du principe que ces taxes seront bel et bien imposées à partir du 1er mai. Ce serait un coup dur pour l'industrie sidérurgique européenne, notamment en Allemagne. Cyril Sauvageau s'est rendu dans la Ruhr, le plus grand site de production d'acier en Europe.
Les usines ThyssenKrupp au bord du Rhin, un gigantesque complexe industriel unique en Allemagne. Chaque année, 11,5 millions de tonnes d'acier produites ici partent à l'export, principalement en Europe, mais aussi aux États-Unis. Près de 120 000 emplois en dépendent. Jeff travaille pour un sous-traitant et comme tout le monde ici, il s'inquiète.
Là.
Regardez autour de vous, s'il n'y a que des usines qui travaillent l'acier. Si des taxes sont mises en place, toute la filière va en souffrir et des emplois seront forcément menacés.
Ce serait un nouveau coup dur pour le site de Duisbourg déjà en sursis. La fusion avec le géant indien Tata a permis d'obtenir des garanties sur l'emploi pour les 10 prochaines années, mais le protectionnisme de Donald Trump risque de bouleverser le marché, redoute Dieter Liske du syndicat IG Metall.
Nous autres Européens ne seront pas les seuls concernés par ces taxes. La Chine, le Vietnam, tous les pays d'Asie qui produisent énormément d'acier vont vouloir déverser sur le marché allemand et européen ce qu'ils n'arrivent plus à vendre aux États-Unis. Pour nous, il y a donc le risque d'une double sanction.
La direction de ThyssenKrupp, de son côté, préfère relativiser, expliquant que seule une toute petite part de la production d'acier est exportée outre-Atlantique.
Cyril Sauvageau est ce soir le principal conseiller économique de Donald Trump. Larry Kudlow affirme que l'Union européenne peut encore échapper à ses taxes américaines à condition de faire des concessions, notamment dans le domaine de l'industrie automobile. On termine ce journal avec ce sommet intercoréen prévu demain à la frontière entre le Nord et le Sud. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un rencontrera le président sud-coréen Moon Jae-in. L'entretien aura lieu dans la zone ultra-militarisée qui sépare les deux Corées, dans un bâtiment situé côté sud, à quelques dizaines de mètres de la ligne de démarcation militaire. Élise Delève est l'envoyée spéciale de France Culture à Pyongyang. Et visiblement, dans la capitale de la Corée du Nord, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce sommet intercoréen.
Eh bien, il y a une seule source d'information ici. Le journal de 20h, la télévision d'État, qui dure une dizaine de minutes. Hier soir, trois présentateurs se sont succédés à l'écran pour parler des militaires qui célèbrent un jour férié, du nouveau système d'irrigation d'une commune rurale, de l'ouverture d'un nouveau magasin de viande, mais rien sur le sommet intercoréen. On a aussi appris que Kim Jong-un avait fait une déclaration, sans savoir laquelle. C'est l'agence officielle du régime qui la publiera plus tard. Difficile donc de parler du sommet avec les Nord-Coréens que j'ai rencontrés ici. Vous pourrez en parler une fois qu'il est terminé et que les annonces ont été faites, me dit-on, mais pas certain qu'ils acceptent de vous parler politique. Il y a de toute façon peu de chances que les habitants de Pyongyang soient déçus par l'issue du sommet. Partout, dans les rues, les écoles, les usines que j'ai visitées, les slogans à la gloire du pays et de son leader sont affichés en grand, Pas une interview sans citer Kim Jong-un. Les Nord-Coréens avec qui j'ai parlé ont tous exprimé leur gratitude et leur confiance absolue en leurs dirigeants.
Élise Delève, envoyée spéciale de France Culture à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Retour en France avec la météo demain. Belle journée à l'est alors qu'à l'ouest le temps sera mitigé. Un ciel nuageux et parfois pluvieux sur les régions proches de la Manche. La pluie arrivera sur les Pyrénées et le Piémont pyrénéen en fin de journée. Les températures minimales très contrastées de 2 à 16 degrés du nord-est aux régions méditerranéennes. Les maximales de 14 à 20 degrés sur la moitié ouest, de 20 à 26 à l'est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.